face à la litanie des catastrophes climatiques, des prévisions alarmantes, mais aussi de l'attention croissante portée aux théories de l'effondrement, l'idée que la fin est proche semble imprégner les mentalités. Mais que se passe-t-il si l'on prend cette hypothèse au sérieux? Que devient l'action humaine et la morale lorsqu'il n'y a plus de lendemain? Comment vivre avec la fin du monde? Et pourquoi continuer d'agir pour sauver le monde si l'on sait l'inéluctabilité de sa destruction? Bonjour Pierre-Henri Castel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes philosophe, directeur de recherche au CNRS, historien des sciences et puis psychanalyste. Et vous signez cet ouvrage que j'ai sous les yeux ce matin, Le mal qui vient. Dans cet ouvrage, vous mobilisez les outils de la psychanalyse, de la philosophie pour interroger les derniers temps avant la fin du monde. Ce qui vous a intéressé, c'est le moment qui précède l'apocalypse et ce qu'il pourrait produire sur les individus, sur leurs relations entre eux. Dès le début du livre, Pierre-Henri Castel, vous formulez une proposition à partir de laquelle vous allez dérouler tout votre essai, à savoir celle qui reste à l'humanité moins de temps à vivre que le temps qui nous sépare de Christophe Colomb. Donc en gros, votre hypothèse, c'est de dire qu'il reste à peine 5 siècles d'existence aux humains. Pourquoi 5 siècles? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 100? Et est-ce que finalement, c'est si important que ça?
Non, ce n'est pas important. Si vous êtes plus optimiste, vous pouvez dire jusqu'à Jules César ou tout ce que vous voulez. L'idée simplement, c'est de tirer des conséquences du fait que si on inscrit la fin du monde, la fin de l'humanité, en tout cas telle qu'elle existe comme humanité civilisée sur toute la planète, dans cet horizon-là, c'est parce que c'est un horizon historique. C'est-à-dire qu'on sait tous que la planète un jour disparaîtra à cause du Soleil, à cause de l'explosion du Soleil. Dans des temps cosmiques, l'idée c'est d'inscrire cette fin dans un horizon historique. Un horizon historique, c'est de se représenter que les derniers hommes, par exemple, ce seront des gens qui nous ressembleront suffisamment pour qu'on puisse faire des sortes d'hypothèses sur la manière dont ils se représenteront ce qu'ils vivront. Et en particulier, par exemple, se dire que les hommes de la fin des temps pourront se dire que ce qui leur arrive, ce que nous faisons ou ne faisons pas aujourd'hui, y aura joué un rôle. C'est ça l'idée.
Mais placer la fin du monde dans un horizon historique, dites-vous, finalement, ce n'a rien de réellement nouveau. L'humanité y est confrontée depuis longtemps. Au fond, les précédentes civilisations ont souvent eu la conviction, à tort ou à raison, qu'elles allaient finir par s'effondrer. Les récits d'apocalypse existent depuis la nuit des temps, finalement. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est que ceci n'est pas une catastrophe. C'est que ce que je pose en prémisse, sans savoir d'ailleurs du tout comment ça se passera, ni quand, ni rien du tout. C'est une expérience de pensée sur laquelle on parlera, je pense. Non, ce que je veux dire par là, c'est que cette catastrophe-là, elle est pensée comme la catastrophe. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de civilisation qui assure la relève. Il n'y aurait pas de dépassement d'un état particulier de la civilisation ou de la société. C'est pour reprendre le mot de Günther Anders, n'est-ce pas? C'est une apocalypse sans royaume. Il y a rien au-delà. C'est ça qui est assez frappant. Et je ne crois pas du tout, en réalité, que une idée de ce genre, en tout cas dans la modernité, ait pu se former et en tout cas toucher la sensibilité commune avant les années 60, avant l'apparition de la peur de la catastrophe, de la guerre nucléaire, de l'hiver nucléaire, suite à un conflit entre l'URSS et entre l'Est et l'Ouest à l'époque. Hein, c'est la première fois qu'on le voit apparaître.
Vous parlez de Günther Anders, effectivement, qui a pensé évidemment cette catastrophe nucléaire. Vous dites que depuis l'effondrement du mur de Berlin, la catastrophe nucléaire n'est plus une obsession et qu'au fond, notre représentation de la fin du monde aujourd'hui est plutôt associée à une catastrophe écologique, environnementale, provoquée par le dérèglement climatique. En quoi précisément cette évolution des représentations, des modalités de la fin du monde change-t-elle précisément notre manière de l'appréhender ?
Alors d'abord, la différence entre des bombes atomiques qui explosent partout, comme dans Docteur Folamour, des choses comme ça, parce qu'il n'est pas du tout exclu que ça se termine effectivement comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que les processus qui mènent à la destruction géopolitique de la planète, parce qu'évidemment, il y aura des guerres, des famines, des exodes gigantesques, des épidémies, c'est plutôt que ce sont des processus qui sont insidieux, qui sont très lents, qui sont quasiment invisible et sur lequel il est très très difficile d'avoir une prise politique parce que ça n'est pas, vous voyez, militer pour la paix, ça n'est pas désigner un bon et un méchant, c'est s'interroger sur le fait que justement un certain nombre de choses auxquelles nous tenons, comme par exemple le fait que des centaines de millions d'êtres humains, par exemple en Chine ou en Inde, accèdent à un minima, sortent d'une misère sordide et accèdent à l'éducation, la santé, etc. Ça suppose pour les nourrir, pour les déplacer, pour les éduquer, etc., des ravages absolument gigantesques exercés sur le reste de la planète. Hein. On dit souvent comme ça, c'est le capitalocène, c'est quelque chose d'affreux, c'est l'exploitation capitaliste de la nature qui détruit les choses. Moi, j'ai des étudiants chinois. J'ai beaucoup de mal à dire à mes étudiants chinois que le fait qu'ils puissent être là et faire les études qu'ils font, c'est lié au fait que l'Amazonie est détruite pour qu'on y plante du soja, qu'on nourrisse des bœufs, etc., etc. Donc il y a cette destruction de la nature. Il faut non seulement penser qu'elle est liée aux injustices, aux inégalités du système économique contemporain, mais aussi qu'elle est liée à la production de choses qui ont des valeurs pour nous. Comme précisément que des centaines de millions d'êtres humains loin d'entre nous sortent de la misère.
Oui, donc ce que j'entends, c'est qu'en réalité, la nature même de notre modèle civilisationnel porte son propre effondrement.
C'est pour ça qu'il y a une enfin, je ne discute pas vraiment de ces questions-là, mais je rappelle ces choses parce qu'on les oublie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une hypothèse intellectuelle, qui est d'essayer d'analyser ce que veut dire l'idée de fin du monde concrètement, en la posant, et puis en partant de ce postulat, et puis d'essayer d'en déduire un certain nombre de choses, une attitude tout à fait philosophique. Sur la manière dont on y arrive ou dont on n'y arrive pas, la seule chose à retenir, c'est qu'elle est intrinsèquement liée au fait que nourrir, éduquer et permettre une vie décente à des milliards d'êtres humains semble bien impliquer intrinsèquement une destruction de la nature.
La question maintenant est de savoir si nous en avons conscience ou pas. Et là, je vous cite. Vu le genre de fin qui s'annonce, ne pourrait-on pas envisager qu'il est tout simplement impossible de convaincre un nombre croissant d'entre nous qu'il n'est pas déjà trop tard? Autrement dit, peut-être sommes-nous moins insensibles que résignés, voire cyniquement conscients qu'il est déjà trop tard. Pour nous, on sait. Et puisque nous savons, on n'a pas de raison d'agir.
Alors je dirais pas que exactement on sait, mais il y a une chose qui est souvent pourquoi avec le type d'information dont on bénéficie, les gens ne font rien. Je pense qu'il y a eu notamment rien ou extrêmement peu, hein, et que quand ils font très peu, de toute manière, ça suscite des réactions et des crispations dans lesquelles on sent bien que ce serait privé de moyens, qu'agir contre le réchauffement climatique risquerait de provoquer des crises économiques et politiques extrêmement graves, parce que ça supposerait des changements vertigineux dans l'organisation des sociétés. Ce que je souligne, c'est qu'on a beaucoup essayé l'angoisse. Hein, d'ailleurs, c'est pas la première fois. Dans les années 60, hein, quand on a eu peur de la guerre nucléaire, on essayait l'angoisse.
Si tout le monde était très angoissé, on allait réagir. Dans Jonas ou encore de Jean-Pierre Dupuis.
C'est exactement ça, ce qu'on appelle l'heuristique de la peur. Et on essaie de la ranimer avec des objets qui sont quand même moins spectaculaires que des bombes atomiques, qui sont le réchauffement climatique presque invisible et largement contesté par plein de champs. Hein.
Et quoi, votre idée, c'est de dire que l'heuristique de la peur n'est pas efficace, en tout cas, elle ne permet pas de nous pousser vers le changement, c'est ça?
C'est-à-dire qu'il y a tout simplement une chose toute bête, c'est qu'un des problèmes avec l'angoisse, c'est que l'angoisse, on peut toujours imaginer que l'angoisse va provoquer un sursaut, mais on peut aussi constater que l'angoisse paralyse et que les effets de résignation sont à cet égard largement répandus, c'est assez facile à voir. Alors, comme on a beaucoup essayé l'angoisse, moi j'ai suggéré d'essayer l'effroi, c'est-à-dire d'étaler complètement ce que peut être effectivement cette fin, et en particulier d'appuyer sur une deuxième partie de l'argument qu'on a souvent développé à ce sujet, hein, c'est-à-dire l'idée qu'on va finir par avoir tellement peur que finalement on va se réveiller. Je crois qu'il manque un problème, c'est un aspect des choses, c'est que rien ne prouve que l'angoisse garantisse un sursaut, mais que si cette prise de conscience a lieu, rien ne prouve non plus que cette prise de conscience ira dans le sens de l'intérêt collectif. Et c'est ça qui m'intéresse, et c'est pour ça que le livre s'appelle Le mal qui vient, c'est qu'on ne voit pas du tout pourquoi cette prise de conscience ne nourrirait pas une volonté déterminée d'une minorité de profiter des positions qu'elle occupe pour tirer à elle les moyens de la survie, confisquer les dernières ressources à son profit, précisément parce qu'elle a parfaitement pris conscience de ce qui est en train de se passer et de déchaîner à cet égard vraiment des atrocités dont on n'a pas idée.
C'est ce que vous pensez, c'est-à-dire que vous pensez que l'approche de la fin des temps, on va assister à l'approche de la fin des temps, à un déchaînement de violence, ce serait le règne du mal avec un grand M pour reprendre le titre de votre ouvrage.
Alors, voyez,
c'est votre conviction.
Non, c'est pas du tout une conviction, c'est ni un espoir morbide, rien du tout.
C'est une hypothèse, c'est une possibilité, c'est un scénario.
Le problème, c'est que on oublie toujours quand c'est un scénario philosophique, hein, c'est quelque chose qui est en général toujours poussé sous le tapis, hein, cette idée que l'action humaine devrait nécessairement être orientée pour des raisons métaphysiques, hein, vers quelque chose comme le bien collectif, etc. C'est parfaitement faux. Il n'y a aucune espèce de raison de croire à des choses de ce genre. Il se peut parfaitement que la prise de conscience augmente la volonté de malfaisance, se loge tout à fait dans les structures inégalitaires du monde dans lequel on vit, et qu'il n'y a aucune garantie que la prise de conscience en soi soit quelque chose dont on puisse espérer un bon effet. Hein. Mais ça encore, je trouve assez optimiste ce que je vous dit là, parce qu'en réalité, il faut pousser jusqu'au bout les raisonnements. Il y a deux étapes supplémentaires. L'étape suivante, c'est de dire que même lorsque la fin s'annoncera, c'est pour ça que le livre est sous-titré un essai hâtif, c'est que la hâte va jouer un rôle dans mon hypothèse de pensée, qui permet une hypothèse de pensée, ça permet juste de clarifier ce qu'on veut dire quand on parle de fin du monde. S'il y a une hâte particulière, ce sera celle de savoir si on se retrouve du côté des victimes ou du côté des bourreaux. Et que les choix, vous voyez, ce sont ceux que raconte très bien la science-fiction post-apocalyptique. Hein, par exemple, La Route de Cormac McCarthy ou Silo, des choses comme ça. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des chefs-d'œuvre. Hein, quand il commence à y avoir des formes comme ça qui étaient mineures et qui sont des chefs-d'œuvre, ça veut dire que les sensibilités collectives changent et qu'on est en train de s'habituer à penser autrement. Eh ben, l'étape suivante, c'est de se dire que les derniers trouveront une jouissance particulière à la destruction, à la ruine, au massacre, etc.
Donc le mal viendrait de la jouissance absolue.
C'est plutôt ça qui peut, ouais. À mon avis, on reculerait devant l'idée de fin des temps si on reculait devant l'idée qu'elle puisse être l'occasion pour les derniers d'éprouver des jouissances juste effrayantes. Et au fond, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de prolonger, d'essayer de donner un peu plus d'étoffe morale et rationnelle à des intuitions qui sont parfaitement courantes dans la science-fiction post-apocalyptique, mais qui sont constamment poussées de côté quand on réfléchit au scénario habituel de fin des temps.
Mais alors, Pierre-Henri Castel, que préconisez-vous compte tenu de ce déchaînement de violence, de ce mal absolu qui pourrait s'emparer de la Terre, faut-il nous aussi tomber dans la violence, succomber au mal, puisque de toute façon, quelques instants plus tard, le bien et le mal n'existeront même plus, puisqu'il n'y aura plus de Terre et donc plus de bourreaux, plus de victimes. Ou est-ce qu'il faut au contraire essayer de conserver notre humanité jusqu'au bout, prôner l'amour et la bienveillance jusqu'au dernier instant?
Alors, permettez-moi il s'agit absolument pas d'un programme, hein, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Ce qui est difficile
de proposer... dans ce scénario-là.
C'est à l'intérieur du scénario, c'est d'essayer de faire apparaître les possibilités qu'il y a. La question que vous soulevez, c'est pas celle du mal qui vient, c'est celle du bien qui vient. C'est-à-dire que si on veut conserver sa cohérence à l'idée de mal, il lui faut quelque chose qui, sur les mêmes bases, celle d'une fin historique de l'humanité, valent pour le bien. Alors à ce moment-là, ben oui, j'ai quelque chose effectivement que j'évoque, c'est que il n'y a absolument pas non plus de nécessité à ce que dans la hâte et dans la panique le mal se déchaîne. Hein. Il faut pas du tout se représenter les choses comme nécessaires de cette façon-là. Il y a un bien qui vient, sauf que ce bien effectivement risque d'être un bien, comme je dis, avec des griffes et des dents, qui paraîtra pas un bien à tout le monde, mais que rien n'en empêche jusqu'au bout hein, de préserver la volonté, tout simplement, de maintenir la justice, un certain nombre de... Jusqu'au bout, absolument, jusqu'au dernier jour. Il n'y a strictement rien qui exclut que des gens fassent ce choix du bien, de la vitalité, de la vie, etc. Même si l'attente... Et que pour cela, ils devront déployer probablement des choses assez violentes pour le faire.
Pierre-Henri Castel, on parle de plus en plus de la question de la responsabilité vis-à-vis des générations futures à propos du dérèglement climatique, évidemment, mais aussi à propos de bien d'autres choses. Pensons par exemple à la question de la dette des États. Or, cette responsabilité, visiblement, n'a pas beaucoup grâce à vos yeux. Je vous cite. « Je ne trouve décidément pas assez de mal à dire de la prétendue responsabilité envers les générations futures, tellement elle est imprégnée d'une angoisse absurde qui engendre fausse raison sur fausse raison pour se justifier. Une telle angoisse se donne les airs de la plus grande dignité éthique, alors qu'elle n'est qu'un miroir de la misère du présent. Pourquoi cette aversion pour le principe de responsabilité vis-à-vis des générations futures ?
Oui, alors c'est sûr que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour Jonas et pour ce genre de type de pensée extrêmement métaphysique, n'est-ce pas, qui essaie de penser une sorte d'essence de l'homme qui serait, qui devrait, par on ne sait quel miracle d'auto-référence, se produire comme ça à l'infini, se référer à soi-même, etc. C'est pas lié à la dette des États. Hein, je crois qu'on peut se soucier tout à fait pour la prochaine génération de la dette des États. C'est lié à l'argument qui est né dans les années 60. Chez les auteurs que vous citiez tout à l'heure, que nous devions quelque chose à l'existence de nos enfants. Je ne suis pas sûr que ce soit simplement ni plausible ni valable pour simplement une raison toute bête hein, c'est que chaque génération ce qui la caractérise c'est de s'inventer elle-même sa responsabilité. Et que je ne vois absolument pas pourquoi on devrait anticiper sur la manière dont les générations futures assureront leur propre responsabilité à l'égard de ce qui leur arrive. Mmh. Hein, c'est quelque chose qui consiste comme ça à essayer de figer dans une forme fixe ce que les générations futures devraient faire. Et en général, c'est réparer ce que nous avons fait. Nous-mêmes, je n'ai absolument rien contre les générations qui ont mis la nature dans l'état dans lequel elle est. Je considère que ma responsabilité, elle est uniquement pour ma génération et pas pour celle. J'ai rien à dire contre ceux qui m'ont précédé.
Votre livre, Pierre-Henri Castel, est dédié aux Valveturners, ce groupe d'individus qui sont allés couper le pipeline de l'Alberta pour aller brûler les sables bitumineux dans les raffineries
louisianes. J'ai appris récemment qu'ils ont été acquittés, finalement.
Absolument. Pourquoi leur dédier ce livre ? Est-ce que c'est une manière de soutenir, voire même de prôner la désobéissance civile ? Est-ce que vous pensez qu'on peut, on doit verser dans l'illégalisme, parfois ? En tout cas, dans certaines situations.
Alors, de toute façon, les gens qui détruisent la nature, ça fait d'un beau temps qu'ils ont versé dans l'illégalisme. Donc, la question est en fait si vraiment on doit leur laisser le monopole de cet illégalisme. Alors, effectivement, le livre se termine sur quelques phrases qui ont été très très controversées, qui ont même été qualifiées d'appel au meurtre. Ce à quoi je pense, c'est la traduction concrète de ce que veut dire ce bien qui vient et ce bien qui n'est pas, qui a des griffes et des dents. Il y a des formes de violence à inventer, des formes de violence absolument inédites, dont, par définition, je ne sais pas la forme. Hein, c'est un livre de philosophie, c'est pas un programme sociologique ou politique, hein, mais qui me paraît assez cohérent logiquement avec ce qui vient. C'est-à-dire que ces violences inédites, ces illégalités, elles ont, à mon avis, la forme difficile qu'il faudrait qu'elles aient, c'est que ce soit des violences qui soient collectivement réfléchies. C'est pour ça que je ne pense pas que la notion de désobéissance civile ou civique, on devrait plutôt dire, suffise. C'est quelque chose de plus que ça. Et que d'autre part, moi, ce qui me fascine dans les Valveturners, c'est que ce sont des gens qui ont agi à visage découvert. Hein, c'est tout le contraire de cette espèce de mythologie anarchiste, style comité invisible, Deep Green Resistance ou des choses comme ça, qui prônent des formes de sabotage vert ou des trucs de ce genre-là, parce qu'ils ont agi à visage découvert et agissant à visage découvert, ils font sentir que c'est tout le monde qui est censé les défendre, les protéger et notamment les protéger des injustices qui sont commises au nom du profit. Hein. Là, il s'agit du pipeline qui descend du de l'Alberta et qui va jusqu'au sud des États-Unis pour raffiner un des pétroles les plus polluants du monde.
Merci beaucoup Pierre-Henri Castel de nous avoir aidé un peu à penser cette fin des temps, fin d'année 2018. C'est toujours intéressant d'avoir ce type de regard. Le mal qui vient, essai hâtif sur la fin des temps. Un essai extrêmement intéressant, difficile disons-le, qui nous bouscule un peu mais extrêmement intéressant. Il est paru au CERF. Merci infiniment Pierre-Henri Castel. Il est 8h, vous écoutez France Culture. On ouvre notre deuxième partie consacrée à Amos Oz. Il faisait partie de la première génération d'écrivains israéliens ayant l'hébreu pour langue maternelle. Amos Oz s'est éteint vendredi à Tel Aviv à 79 ans. Romancier, officier de réserve, militant pacifiste, son histoire se confond avec celle du pays. Né Amos Klausner de parents émigrés ukrainiens en 1939 dans une Jérusalem occupée par les Anglais, il avait assisté à 9 ans à la naissance d'une nation. 3 ans plus tard, le suicide de sa mère avait conclu prématurément sa jeunesse. Ce drame sera d'ailleurs au cœur de ce qui restera son chef-d'œuvre, une histoire d'amour et de ténèbres. Cette figure de la gauche sioniste, fervent partisan d'une solution à deux États, laisse derrière lui un message de paix et de fraternité. Bonjour Marc Weisman.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin.
Merci à vous.
Vous êtes journaliste, écrivain, producteur de l'émission Signe des temps sur France Culture. En Israël, les hommages se sont multipliés depuis la disparition d'Amos Oz. Le président a dit son immense tristesse, le qualifiant de géant de la littérature. Même le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré que, bien que n'ayant pas les mêmes idées, il appréciait profondément sa contribution à la langue et à la littérature israélienne. Les réactions des derniers jours en Israël, et peut-être un peu partout dans le monde, montrent combien il avait une place à part dans la littérature israélienne, et en fait dans la littérature tout court.
Mmh. Oui, Amos Oz était un fils d'immigré, hein. C'est-à-dire que ses parents parlaient mal hébreu, et lui, par son travail, par son œuvre, a contribué à façonner littéralement cette langue, en faire quelque chose de moderne. Donc, il est vraiment un des créateurs de la littérature contemporaine israélienne et donc de la littérature contemporaine hébraïque. Mmh. C'est une des premières choses qu'on peut dire. L'autre, c'est que c'est
la raison d'ailleurs pour laquelle il se disait lui-même hébreu. Il disait je suis pas israélien, je suis pas juif, mais je suis hébreu. L'identité d'Amos Oz, c'était d'abord
pas juif. Oui, ça s'inscrit dans un débat qui est très très important pour l'histoire d'Israël. C'est-à-dire qu'il est de cette génération. Il était né en 39, hein, donc il a grandi dans une conception du sionisme qui était vraiment le sionisme des origines, un sionisme socialiste, étatiste, et dont le but spirituel, pour ainsi dire, était de faire sortir les Juifs, de faire entrer les Juifs dans l'histoire et de les faire sortir du destin juif. De ce point de vue-là, les Israéliens de cette génération, enfin les leaders sionistes, ne cherchaient pas spécialement à être Juifs, ils cherchaient à devenir Israéliens. C'est très particulier. Mmh. Et une bonne partie du travail d'Amos Oz s'inscrit dans cette problématique. On va en parler parce que c'est une question importante.
Oui, Amos Oz, c'est probablement l'auteur le plus représentatif de cette génération dite de l'État, née un petit peu avant la création de l'État d'Israël. Son œuvre est traversée, vous le disiez, par ce rêve sioniste collectif. Et c'est d'ailleurs parce que Israël est né d'un rêve qu'il a pu parfois ressentir une certaine déception. Je le cite, les autres pays ne se sont pas construits sur des rêves, mais sur des réalités démographiques, politiques, géographiques. Parce qu'Israël est né du rêve, il est forcément décevant. La déception n'est donc pas liée à la nature d'Israël, mais à l'accomplissement du rêve qu'il a porté.
Oui, mais Amos Oz était pour la déception. Il faut bien comprendre qu'il disait qu'il était né que dans sa famille les gens avaient de grands rêves, de grands projets pour refaire le monde, mais qu'ils étaient incapables d'attacher leurs lacets, par exemple. Et lui, il s'intéressait aux lacets détachés, c'est-à-dire qu'il s'intéressait aux détails. Son maître en littérature, c'était Tchekhov. Et donc tout son travail, ça consiste à tout le travail d'Amos Oz dans ses livres consistait à faire la différence entre le rêve et les petits détails de la réalité prosaïque. Mmh. C'est à partir de là que sa démarche politique prend sens, parce que son père était plutôt un sioniste dur du leader sioniste Vladimir Jabotinsky qui était plutôt de droite. Et lui, après le suicide de sa mère, effectivement, s'est investi dans les kibbutz plutôt de gauche. Mais tout son parcours politique est sous-tendu par cette idée qu'il faut confronter les grands rêves aux prosaïques de la réalité, aux petits détails, aux petites choses. Et de ce point de vue, il s'inscrit dans une grande tradition juive, pour le coup. Mmh. C'est-à-dire que la fameuse phrase de Joyce, hein, l'histoire est un cauchemar dont j'essaie de m'éveiller, l'idée que le sionisme est l'entrée des juifs dans l'histoire, par le rêve. Amos Oz cherche à retrouver, à sortir de cette histoire à travers des petits détails pour retrouver le quotidien prosaïque. Et du coup, il tombe également sur la réalité arabe, palestinienne, et donc le dialogue à partir de là peut s'engager, mais c'est toujours un dialogue extrêmement humble sur des détails aussi, sur les êtres, sur la vie des êtres.
Vous parliez de son père était un spécialiste de littérature hébraïque, employé de bibliothèque, sa mère donne des cours de littérature et d'histoire dans un lycée, donc un milieu modeste mais un milieu intellectuel, de droite. Il était baigné dans un environnement nourri par ce sionisme nationaliste, il dira plus tard qu'enfant il était un petit chauvin déguisé en pacifiste, c'est ce qu'il dit, ce qu'il raconte dans une panthère dans la cave. Ouais. Alors qu'il a une douzaine d'années, peut-être qu'il faut parler de ce moment-là, donc sa mère évidemment se suicide au terme d'une longue dépression, c'est une longue, terrible déflagration qui va ensuite être suivie par une prise de distance avec son père, et c'est quand il a 14-15 ans qu'il décide de s'installer dans un kibboutz. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qu'il y cherche et qu'est-ce qu'il y trouve?
Ah ben ça, il faudrait lui demander. Ce qui est sûr, c'est que le suicide de sa mère, d'abord, c'est pas quelque chose d'unique. Hein. Je crois que la mère d'Ariel Sharon s'était également suicidée. Il faut bien voir que la vie de ces gens qui étaient, c'était les sionistes, les militants sionistes, c'était des gens très jeunes qui avaient tout quitté, qui étaient dans un pays qui ne connaissaient pas. Il y avait un sentiment de déracinement. La vie était très très dure. Et les grands rêves suffisent pas toujours à nourrir le quotidien. Je pense que c'est le suicide de la mère d'Amos Oz de ce point de vue fait figure de moment fondateur pour lui. Donc dans cette confrontation justement entre les grands projets et ce qu'est la vie finalement. Donc il s'engage, à partir de là, Amos Oz s'est engagé effectivement un peu dans le à gauche et d'abord dans les kibboutz, ce qui l'a pas empêché de faire l'armée. Hein, il a fait deux guerres. Il était profondément sioniste, mais sa conception, il faut bien voir ce qu'était Israël à l'époque. Israël, c'était vraiment un pays collectiviste, où la vie, où l'existence individuelle avait peu d'importance par rapport au projet au projet national. Projet national non pas nationaliste au sens où on l'entendrait aujourd'hui, mais vraiment au sens socialiste, d'idéologie socialiste. Dans le kibboutz, Amos Oz retrouvait quelque chose de ça. C'est-à-dire que c'était les kibboutz, c'était des structures de vie collective socialiste où la vie individuelle avait peu d'importance. Tout son travail, ça consistait à faire ressortir ces contradictions, à faire émerger la subjectivité individuelle au sein de ces structures.
D'ailleurs, ce microcosme collectiviste, c'est le théâtre de plusieurs de ses livres. Les Terres du Chacal, son premier recueil de nouvelles, paru en 65. Ailleurs peut-être, son premier roman, mais aussi Un juste repos, La boîte noire, ou encore Entre amis, tout ça. Voilà, on voit cette utopie collectiviste qui est quelque chose qui va l'habiter dans toute sa vie et toute son œuvre. C'est dans ce qui
mais qu'il critique, hein.
Mais qu'il critique en même temps.
Il
la
critique. Il encore une fois son parcours. Il la critique comme un romancier le fait. C'est pas un théoricien. Hein. Il s'agit de faire ressortir les destins individuels. Vraiment la démarche elle est tchékovienne. Il opposait le lyrisme shakespearien aux pièces de Tchékov. C'est-à-dire que ce qui l'intéressait c'était vraiment les vies individuelles face aux structures collectives. Comment sortir de l'embrigadement guerrier, comment sortir de la nécessité de l'embrigadement, c'est-à-dire que la tragédie d'Israël, la tragédie le sionisme est une tragédie pour les Juifs. Et Amos Oz avait clairement conscience de ça. C'est-à-dire que le sionisme, c'est le moment où les Juifs doivent accepter de s'embrigader dans l'histoire. Et c'est un déchirement. Et Amos Oz essaye faisait partie de ces écrivains qui essayaient de faire ressortir, de se libérer de se libérer un peu de cet engagement pour essayer de retrouver une subjectivité individuelle et pour retrouver une certaine forme de liberté dans cette nécessité qu'est le sionisme.
Marie Weitzman, je vous propose de réécouter justement la voix d'Amos Oz. En 2017, Olivia Gesbert l'avait rencontré après la parution de son dernier roman, Judas, qui est paru chez Gallimard. Écoutez ce qu'il disait à propos de la violence.
J'ai une parente qui était dans un camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle nous a toujours rappelé que ceux qui l'ont libéré de Theresienstadt, ce n'étaient certainement pas des manifestants qui portaient des pancartes et des feuilles d'olivier. Mais c'était des soldats qui avaient leurs casques et leurs armes. C'est quelque chose que je me rappelle. Lorsque je pense à quel point les rêves d'Abravanel ou de Jésus sont doux, j'aime beaucoup ce rêve. Est-ce que je peux y participer? Non. Si quelqu'un essaye de vous attaquer violemment dans la rue, et je suis là, moi aussi. Et je peux, par la force, empêcher cela. Eh bien, je vais le faire, par la force. L'idée de tendre la deuxième joue, c'est une très belle idée. Mais ce n'est pas moi.
On entend dans cet extrait Marc Weizmann, évidemment Amosos était un pacifiste, défenseur de la paix, mais il ne rejette pas complètement pour autant la violence.
Non, mais c'est ça, c'est ce que j'essayais de dire, c'est très intéressant cet extrait. Hein. Le pseudonyme qui s'est choisi, Ose, signifie force. Je disais que le sionisme était une tragédie, et c'est ce qui montre le destin juif d'avant Israël est un rêve ahistorique. Les juifs ne sont pas dans l'histoire, ils sont simplement dans un rapport à Dieu. C'est ce qu'il dit à travers Abravanel, Jésus, etc., ces figures-là. Et la tragédie juive contemporaine, c'est la nécessité de la force, la nécessité d'assumer la violence, parce que sinon on vous tue. Donc il y a aucune.
D'ailleurs, il va directement s'engager. Il faut rappeler qu'il a participé à la guerre des six jours.
Hein. À la guerre de 67, à la guerre de 73, c'est un soldat.
Et ce n'est pas un antimilitariste.
Pas du tout. C'est quelqu'un qui reconnaît la nécessité de la violence, mais c'est pas une violence euphorique. C'est une violence tragique, et de même que les pères fondateurs du sionisme, les premiers leaders sionistes n'étaient pas des gens optimistes et heureux, hilars à l'idée d'avoir créé Israël. C'est des gens profondément qui avaient une conscience profondément tragique de ce qu'ils faisaient, et qui voyaient la création d'Israël comme le résultat du mal. L'histoire, avec un grand H, est considéré comme une manifestation du mal avec un grand M. Mais c'est un mal auquel il faut participer parce qu'on n'a pas le choix, parce que sinon on vous tue. Cette conception-là, elle est centrale dans l'évolution d'Amosos, et pas seulement dans la sienne. Aaron Appelfeld, il y a quelque chose de commun. On voit dans ses livres quelque chose de similaire, dans le refuge, dans le rêve, par exemple, de certains de ses personnages, ce rêve qui rappelle l'exil, qui était une autre patrie, l'exil d'avant Israël, qui est une autre forme de patrie, qui n'est plus possible. Donc Israël, pour ces écrivains juifs, et certainement pour Rose, c'est l'entrée tragique dans l'histoire avec sa part avec sa part noire. La question qui se pose à partir de là, c'est comment, au sein de cette tragédie, faire valoir quelque chose d'humain. Comment ne pas se laisser entraîner dans l'ivresse de la violence qui existe et dans le plaisir de la violence qui est une réalité.
Et comment construire aussi la paix à la fin des années 70? Il contribue à la fondation avec 300 officiers de réserve du mouvement La Paix Maintenant, Shalom Arshav, dont il devient l'un des leaders. La paix est inévitable, disait-il. Mais comment voyait-il justement ce chemin vers la paix? Quelles en étaient les modalités? Rappelez-nous ça.
Amosos fait partie de cette génération qui est vraiment la naissance de la gauche en Israël telle qu'on la connaît, c'est-à-dire la naissance de la gauche d'après 67, d'après la guerre des six jours, quand Israël se retrouve en situation d'occupation dans les territoires, en Cisjordanie, et donc découvre une population palestinienne, une population arabe. Et à partir de là, il s'agit de parler avec eux, et Amosos va prendre la tête avec d'autres de ce mouvement pour tenter d'établir un dialogue, et puis d'établir progressivement un mouvement pour la paix maintenant, dépasser la nécessité de la violence pour trouver autre chose. Et ils sont au départ considérés comme des traîtres, enfin en tout cas au départ c'est un mouvement extrêmement clandestin. Mais la notion de traître n'a pas le même sens que ce qu'on entend aujourd'hui par là. À l'époque, il y a une notion de trahison parce que le pays est encore. Faut bien voir qu'Israël, jusqu'en 67, est un tout petit pays. Il a été attaqué plusieurs fois. Donc il y a la notion d'instinct vital qui est très présent. On est 20 ans après la Shoah aussi. Donc les gens comme Amosos prennent un très grand risque. En allant parler avec l'ennemi, en essayant de construire un mouvement pacifique qui n'est pas encore pacifique, mais qui est, c'est-à-dire que c'est pas la paix comme but, c'est la paix comme cheminement. Il faut arriver, il faut dépasser la violence. C'est pas une catégorie morale. C'est une catégorie. La paix fait partie de la guerre, en quelque sorte. Mmh. C'est parce qu'on fait la guerre qu'il faut arriver à un moment donné à ne plus la faire.
Et pour arrêter de faire la guerre, il y a évidemment le dialogue, mais il y a aussi, et c'était ce qu'il défendait, créer deux États. C'était sa grande idée. Je propose d'écouter un nouvel extrait, justement, toujours de cet entretien qu'il a eu en 2017 avec Olivia Gesbert. Des entretiens, un entretien inédit.
Les Israéliens et les Palestiniens, tout d'abord, ils ont besoin de deux États. Peut-être après un marché commun. Peut-être après un genre de fédération. Et peut-être plus après. Mais il est absolument impossible de faire l'amour sous la menace des fusils. C'est en fait quelque chose qui doit évoluer. Ce n'est pas quelque chose de radical, de soudain. Je crois à ce que l'on se fasse la cour. Je crois à la patience. Je crois que faire la paix, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais c'est comme lorsque l'on essaye de guérir une plaie, de traiter une plaie. Un médecin, un bon médecin, ne va jamais vous dire, vous prenez ce comprimé, dans 5 minutes vous êtes guéri. Les Israéliens et les Palestiniens ont encore un chemin difficile à parcourir.
Voilà, on va retrouver un nouvel invité par téléphone depuis Tel Aviv, Elan Grelsamer, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Bar-Ilan. À ceux qui accusaient Amos Oz d'être un idéaliste en considérant que la solution à deux États n'était plus réaliste et qu'il fallait se résigner à l'option d'un État binational, Amos Oz répondait que l'idéalisme était plutôt dans l'ambition de faire cohabiter dans la paix deux peuples qui se faisaient la guerre depuis des décennies. De son point de vue, en tout cas, la solution à deux États n'était pas idéaliste et utopique, mais totalement pragmatique. Et pour lui, d'ailleurs, il n'y avait pas d'autre solution. Quel regard vous portez sur cette analyse? Est-ce que vous diriez qu'en effet, nous avons tort finalement de penser que la solution à deux États ne serait plus viable aujourd'hui?
Bon, vous évoquez ici une grande controverse au sein de la gauche israélienne, de la gauche intellectuelle israélienne, quant à ce que devrait être une solution du conflit israélo-palestinien. Ça fait déjà pas mal d'années que la gauche israélienne, et la gauche, je pense, dans le monde, soutient la solution des deux États, l'État d'Israël, État juif avec minorité arabe à l'intérieur d'environ 20% de Palestiniens, et à côté un État palestinien, la solution des deux États pour les deux peuples. Or, dans les dernières années, un certain nombre de voix commencent à s'élever et à dire que ce n'est pas réaliste aujourd'hui, avec la présence de près de 2 millions de colons en Judée-Samarie, en Cisjordanie, avec l'évolution Hamas, autorité palestinienne, cette solution des deux États, on s'en éloigne, et des voix, enfin la voix la plus célèbre, c'est celle de l'écrivain israélien Avraham Yoshua, qui était un grand ami d'Amos Oz, mais qui a dit ce n'est plus réaliste, il faut penser à une solution d'État binational. C'est une controverse qui existe. Je pense que la grande majorité des Israéliens de gauche, du camp de la paix, suivent quand même encore l'orientation d'Amos Oz pour les deux États.
Ilan Grelsamer, Amos Oz avait écrit un essai intitulé « Aidez-nous à divorcer », qui était paru chez Gallimard en 2004, dans lequel il expliquait notamment que s'il était européen, il s'efforcerait d'essayer d'aider Israéliens et Palestiniens à faire la paix plutôt que de critiquer les uns et les autres. C'est aussi ça le drame de ce conflit, qu'il n'y a plus personne finalement pour aider à le résoudre, il n'y a plus de médiateurs possibles.
Oui, d'abord, on peut tous être d'accord sur le fait que toutes les forces de paix dans le monde, et en Europe en particulier, devraient aider Israéliens et Palestiniens à se rapprocher, à mieux se comprendre, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut être réaliste, il faut voir la situation. La situation est que, en Israël, la droite a de plus en plus une majorité, c'est-à-dire que les solutions de force, de coercition, de colonisation, etc., gagnent au sein de l'opinion publique israélienne. Et en même temps, chez les Palestiniens, il y a une radicalisation manifestée par la montée du Hamas, qui aujourd'hui, s'il y avait des élections en Cisjordanie, je pense, les gagnerait contre le Fatah et contre l'autorité palestinienne. Donc il y a une montée des radicalismes qui fait que, même si on se donnait du mal pour faire se rencontrer les uns et les autres, je ne suis pas sûr que ça donnerait grand-chose. La situation, disons, pour le camp de la paix, ça, c'est mauvais.
Vous parlez de montée du radicalisme, Ilan Greslamer. Dans Cher fanatique, cette fois, qui est un livre qui est paru en octobre dernier chez Gallimard, voilà ce qu'écrit Amos Oz. Sans l'option rapide de deux États, il est fort probable qu'afin d'empêcher l'établissement d'un État arabe coincé entre la Méditerranée et le Jourdain, s'instaure une dictature temporaire du juif fanatique, un régime raciste qui opprimera à la fois les Arabes et ses opposants juifs. C'est ça qui menace Israël, le glissement vers un régime autoritaire, voire dictatorial ? Ça serait ma dernière question.
Non, je ne pense pas qu'il y ait un glissement de ce genre. Il y a le fait que, de plus en plus, si cette colonisation et cette occupation continuent, comme actuellement, il y a un risque, effectivement, d'apartheid. C'est-à-dire que en Cisjordanie, les Juifs, les colons, auront des droits que n'auront pas les Arabes palestiniens. Ça, c'est le risque. Le risque n'est pas tellement d'un régime dictatorial en Israël, non. Mais encore une fois, je dirais simplement qu'il y a le point de vue d'Amos Oz, qui est le point de vue idéaliste, intellectuel, les deux États, nous sommes tous pour ça. Mais il y a la réalité politique en Israël et chez les Palestiniens, qui ne va malheureusement pas du tout dans ce sens. Et c'est la raison pour laquelle le décès d'Amos Oz est assez concomitant à la mort de beaucoup d'espoir que nous entretenions et les Palestiniens modérés également.
Marc Weitzman, peut-être une réaction.
Oui, je pense que le moment d'Amos Oz, si on peut dire, enfin, en tout cas de cette génération, ça a été les années 90. Ça s'est réalisé dans les années 90 avec les négociations de paix autour du processus d'Oslo. Le refus des Palestiniens et clairement de l'autorité palestinienne de Yasser Arafat de conclure ces accords en septembre 2000, le déclenchement de la deuxième intifada, quand les Palestiniens ont refusé le partage de Jérusalem en deux à l'issue du plan Clinton en septembre 2000, a été pas seulement la fin du processus de paix, mais la fin de la gauche. Ça a signé la fin de la gauche, de la génération d'Amos Oz, et la fin des espoirs d'un État palestinien. Il n'y aura pas d'État palestinien aujourd'hui, c'est clair. C'est pratiquement impossible parce qu'il n'y a plus de leadership et parce qu'il n'y a plus de gauche qui a été décapitée à ce moment-là. Donc là, de ce point de vue, le sionisme tel que le connaissait la génération d'Amos Oz, et pas seulement la sienne, mais celle des leaders historiques de l'État, c'est-à-dire aussi bien Rabin que Pérez, que même Ariel Sharon, ce sionisme-là est en train de disparaître. C'est-à-dire que c'était, quelles que soient leurs opinions politiques, j'inclus même les leaders de droite comme Menachem Begin ou Ariel Sharon, c'était des gens qui avaient la conscience de d'où ils venaient, une grande conscience de la tragédie historique d'où provenait Israël. Aujourd'hui, le courant nationaliste qui naît en Israël, qui débouchera beaucoup moins, à mon avis, sur une dictature que sur une espèce de régime bâtard, comme on le voit partout ailleurs, hein, à mi-chemin entre une espèce de néo-mauracisme et un globalisme de fait, enfin plus le bordel qu'autre chose. Cette espèce de courant néo-nationaliste est en train d'oublier le destin juif dont il procède, et au bénéfice d'un pur arrivisme à court terme. Et les Palestiniens, ce qui reste des Palestiniens, est en train de faire la même chose. C'est juste une lutte pour le pouvoir aujourd'hui. Il n'y a plus aucune perspective.
Merci beaucoup, en tout cas, à Ilan Greslamer d'avoir été avec nous ce matin par téléphone. Je rappelle, professeur de sciences politiques à l'université de Bar-Ilan. Le grand livre d'Amos Oz, c'est une histoire d'amour et de ténèbres, paru chez Gallimard, un succès international, le plus grand succès de la littérature hébraïque contemporaine, traduit en une trentaine de langues. C'est un récit autobiographique, on y retrouve l'histoire de ses aïeux, de son enfance, de sa vie au kibbutz, mais c'est aussi le récit au fond de l'émergence de la nation israélienne. Je propose d'écouter un extrait d'une lecture, le début, justement, de son roman.
Je suis né et j'ai grandi dans un rez-de-chaussée exigu, bas de plafond, d'environ 30 mètres carrés. Mes parents dormaient sur un canapé qui, une fois ouvert pour la nuit, occupait presque entièrement l'espace d'un mur à l'autre de la chambre. De bon matin, ils l'escamotaient, dissimulaient la literie dans les ténèbres du coffre, ils rabattaient le matelas, repliaient et refermaient l'ensemble avant de le recouvrir d'une housse gris clair où ils jetaient quelques coussins orientaux brodés, effaçant les traces de la nuit. La pièce servait à la fois de chambre à coucher, de bureau, de bibliothèque, de salle à manger et de salon. La pénombre régnait dans les deux chambres, la kitchenette, la salle de bain et surtout le couloir de communication. Il y avait des livres, partout. Papa lisait 16 ou 17 langues et en parlait 11, avec l'accent russe. Maman en parlait 4 ou 5 et en lisait 7 ou 8. Ils discutaient en russe et en polonais quand ils ne voulaient pas que je comprenne, ce qui était pratiquement toujours le cas. « Что с тобой? Видишь мальчик рядом с нами? Qu'est-ce qui te prend? Tu ne vois pas que le gosse est là ?» s'emporta papa en russe un jour que ma mère avait lâché par mégarde en hébreu le mot « étalon » en ma présence. Pour la culture, il lisait surtout en allemand et en anglais, et rêvait probablement en yiddish. Mais à moi, ils n'enseignèrent que l'hébreu. Peut-être craignaient-ils que je succombe à mon tour au charme de la belle et fatale Europe si j'en connaissais les langues.
Extrait des pages arrachées à Mossos, une émission diffusée sur France Culture en 2008 avec des textes choisis par Valérie Zenati. On va retrouver justement Valérie Zenati, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes écrivaine, scénariste, traductrice notamment d'Aaron Appelfeld et puis président de la commission littérature étrangère du Centre National du Livre. Vous avez passé une partie de votre jeunesse en Israël, une expérience qui vous a considérablement marqué, qui vous a permis aussi de vous plonger dans cette littérature israélienne qui ne vous a jamais quitté. Ce livre, Une histoire d'amour et de ténèbres, pourquoi finalement il a cette place à part dans l'œuvre d'Amos Oz selon vous?
Je pense que c'était la première fois qu'il prenait la parole de manière autobiographique avec autant de sincérité, et je pense qu'il a fallu du temps pour lui pour dévoiler la blessure dont parlait tout à l'heure Mark Weitzman, c'est-à-dire le suicide de sa mère, parce que lorsqu'il a commencé à écrire, il a commencé à écrire en cachant cette blessure et en la montrant à la fois, comme beaucoup d'écrivains. Dans son premier roman, Mon Michael, enfin un de ses premiers romans, les premières phrases c'était « J'écris parce que les gens que j'aimais sont déjà morts ». Mais ça, il ne pouvait pas le dire encore. Il le dit à la place de son héroïne, Hannah Gonen, mais il ne pouvait pas le dire encore en étant Amos Oz lui-même, parce que je pense qu'idéologiquement, c'est très difficile. Et ce récit s'est imposé dans la deuxième partie de sa vie, parce qu'il était temps, je crois, pour lui de dévoiler la blessure qui était à l'origine de son écriture.
Oui, vous disiez une sincérité, mais aussi peut-être une certaine noirceur. Dès le début du récit, Amos Oz nous décrit un environnement très dur, dans un quartier populaire de Jérusalem, avec une certaine pauvreté, de la promiscuité, avec un multiculturalisme qui produit des différends, qui produit des tensions sociales. Il y a une vraie noirceur, voire une forme peut-être de désenchantement devant la réalité de ce pays qui n'est pas encore une nation.
Oui, bien sûr. Et de toute façon, cette noirceur se trouve dans le titre, mais en clair-obscur, puisqu'on a une histoire d'amour et de ténèbres. Et l'amour est là comme le contrepoint des ténèbres, et comme évidemment cette lumière qui va bientôt être perdue. Je pense qu'il y a quelque chose qui se confond dans cette vision. C'est à la fois la réalité de Jérusalem dans des années très dures et sombres, et puis la mort de sa mère qui va arriver très vite, et qui peut-être rétrospectivement noircit aussi ces années-là.
On compare parfois Valérie Zenati à Amos Oz à Camus. On le dit même que c'est le Camus israélien. Est-ce que c'est une comparaison qui vous semble tenir?
Alors, lui-même ne s'en réclamait pas, donc je ne sais pas si de l'extérieur, je pense qu'il est plus proche des auteurs russes, qu'il aimait beaucoup, qu'il lisait beaucoup. Mark Weitzman évoquait tout à l'heure Tchekhov, je crois. Il a un sens des descriptions qui va plus du côté des auteurs russes. En revanche, ce qu'il avait peut-être, c'était l'oreille de Camus pour l'ironie, pour débusquer ce qui se cachait sous une simplicité apparente du langage. Je pense qu'Amos Oz a fait partie donc de ces écrivains de la génération de l'État, comme on les appelait, qui ont très vite été confrontés à la dimension idéologique de l'hébreu, à l'utilisation idéologique de l'hébreu, et donc qui ont tenté de débusquer le mensonge derrière les apparences. Et donc, en ce sens, ils se rapprochent peut-être d'Albert Camus.
Oui, et le mensonge aussi peut-être derrière les mots. Il y a un souci des mots, peut-être, qui rassemble Camus et Amos Oz. Il y a évidemment cette célèbre phrase de Camus, mal nommé les choses, s'est ajouté au malheur du monde. Avril dernier, Amos Oz avait fait une interview au Point, et écoutez, il se disait lui-même, il disait qu'il était un détecteur de fumée de la langue hébraïque. Et il disait exactement, je le cite, « Très souvent, j'ai écrit des articles en réaction à ce qui me semble être une perversion de la langue. Par exemple, il y a 50-60 ans, lorsque j'ai entendu des gens parler de territoire libéré, j'ai immédiatement pris mon stylo pour écrire un article. Ce n'était ni pour ni contre, mes idées, mes positions sont connues. Non, c'était pour dire que les territoires, des territoires libérés, ça n'existe pas. Le mot libéré n'existe que pour les humains. » On voit ce souci du mot là.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, ayant, je pense, été confronté très tôt à l'utilisation idéologique du langage, voire à l'utilisation faite par la propagande, il tenait en permanence à cette lutte. Il disait également que les mots, lorsqu'on leur faisait dire le contraire de ce qu'ils signifient, devenaient des monstres. Et il poursuivait en disant que, par exemple, l'opération Paix en Galilée, plus tard dans les années 80, qui a mené à la guerre du Liban, était un terme mensonger, qu'il fallait tout simplement appeler ça guerre du Liban, mais pas paix en Galilée. Voilà. Donc il luttait contre cette perversion des mots, et je pense qu'il avait là aussi un attachement peut-être à... On n'a pas évoqué cette partie-là de sa vie, mais il a étudié dans une école religieuse avec la poétesse Zelda, qui était son institutrice, et qui leur a donné, je crois, un rapport aux mots à la fois biblique et précis.
Marc Weissmann, peut-être réaction sur ce souci du mot.
Oui, enfin, ce sera une réaction limitée parce que je ne parle pas hébreu, donc. Mais le fait est que c'est une problématique très particulière en Israël. La renaissance de la langue hébraïque, la modernisation de la langue hébraïque, qui est allée de pair avec la création de l'État, allait aussi de pair avec la nécessité pour l'État à l'époque socialiste de formater la langue en fonction de l'objectif de la création d'État, et donc la dimension de propagande était incluse presque immédiatement dans la renaissance de la langue. Les écrivains ont écrit dans une tension pas très particulière entre les références à la Bible, à la littérature hébraïque antique, polysémique, et un hébreu en quelque sorte appauvri par la modernité, mais aussi par la propagande. Et Amos Oz était dans cette tension-là. Comment rendre à la langue, ressusciter une dimension presque spirituelle, presque métaphysique.
Valérie Zenati, ça sera ma dernière question. L'année s'était ouverte sur la disparition d'Aaron Appelfeld, dont vous étiez la traductrice, mais aussi très proche. Vous aviez de l'affection, de l'admiration pour lui. Et d'ailleurs, vous allez consacrer un livre dans le faisceau des vivants qui va paraître très bientôt, le 3 janvier. Donc c'est une année 2018 qui s'ouvre sur la mort d'Appelfeld, qui se ferme sur celle d'Amos Oz. Quels seraient selon vous les auteurs qui s'inscriraient dans une forme de filiation avec ces deux auteurs, et en particulier avec l'œuvre d'Amos Oz? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui des héritiers?
Alors je pense qu'il y a des gens qui se réclament de lui, comme Meir Shalev ou même Zeruya Shalev, qui a sa propre manière d'écrire, mais qui se sent une filiation avec lui. Notamment, je crois, dans une définition que Amos Oz donnait de sa littérature, il disait « J'écris sur les familles malheureuses ». Et je pense que Zeruya Shalev s'inscrit aussi dans ce sillon-là, qui reste très intimiste et pas idéologique, finalement. Concernant Aaron Appelfeld, je pense que on pourrait peut-être en parler plus longuement, mais il ne me semble pas qu'il ait particulièrement d'héritier. Alors qu'Amos Oz, il faudrait chercher de ce côté-là, oui.
Merci beaucoup, en tout cas, Valérie Zenati, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc dans le faisceau des vivants qui va paraître chez l'Olivier le 3 janvier prochain. Un grand merci à vous également, Marc Weissmann, d'avoir été avec nous. Je rappellerai vous concernant Un temps pour haïr, qui était paru chez Grasset.
C'est ça, oui.
Merci beaucoup.